France Inter.
Peintre franco-israélienne ayant étudié aux Beaux-Arts de Paris, Nathanaël Herbelin expose en ce moment ses tableaux au musée d'Orsay, non seulement de son vivant, et de surcroît dans le printemps de son existence. « Être ici est une splendeur », titre emprunté à un ouvrage de Marie Dariussecq consacré à l'artiste allemande de la fin du 19e siècle, Paula Modersohn-Becker, est visible jusqu'au 30 juin au deuxième étage du musée. Vous y verrez des toiles de Nathanaël Herbelin côtoyant celles de Bonnard, Vuillard, Valoton ou d'autres. Chez chacun, traitement, sujet et couleurs diffèrent, mais entretiennent une cordiale camaraderie. Paysage vide, solitude, abandon, corps nu, confié au regard, intimité, maternité, chat ou objet du quotidien vous salueront de leurs murs respectifs. Une plongée nourrissante chez les Nabis et leur attentive héritière. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Nathanaël Herbelin.
Bonsoir Eva.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai espéré qu'on puisse toutes les deux ce soir se dire des choses que j'ai pas encore dit, parce que j'ai l'impression que je me répète énormément là en parlant de l'expo ou en regardant l'expo, et un peu comme à l'atelier, quand je reviens à l'atelier là aujourd'hui, j'ai envie de comme penser à des choses nouvelles. Et donc c'est peut-être qu'un exercice créatif que j'ai envie de faire avec vous ce soir.
Ah ben peut-être que ça va dépendre aussi de mes questions. Je vais devoir vous en poser, qu'on vous pose.
Ne vous inquiétez pas.
Vous êtes sorti, Nathanaël Herbelin, des Beaux-Arts de Paris il y a moins de 10 ans, quand les commissaires de l'exposition Christophe Leribaud et Nicolas Gosserand vous ont proposé de mettre vos tableaux en perspective avec ceux des Nabis au musée d'Orsay. Quelle a été votre réaction?
Bah, au début, je pensais qu'ils s'en foutent, quoi. Parce que je trouvais que c'était assez étrange de proposer un artiste aussi jeune, etc. Au début, j'ai pensé qu'ils vont me proposer une expo de groupe où je pourrais inviter mes copains artistes, etc. Et ensuite, je me suis dit, en fait, c'est pas si fou que ça, parce que c'est vrai que j'ai volé énormément au musée d'Orsay. C'est un musée qui m'a beaucoup aidé à résoudre énormément de problèmes techniques.
Alors vous dites ça, voler, ça revient souvent. Qu'est-ce que vous avez volé au musée d'Orsay?
Bah, y a pas mal de sujets déjà, et de manières de faire. Bah, quand j'avais besoin de trouver une solution pour comment ne pas faire un contour lourdingue, j'ai allé voir Eugène Carrière, ou j'ai allé voir des artistes qui, leur contour est mis en question, quoi. Ils ont beaucoup plus réfléchi la question. Ou sinon, je suis allée voir Courbet pour me demander est-ce que je suis une artiste assez engagée ou pas, est-ce que mes sujets sont assez importants.
Il vous a rassuré, Courbet?
Oui, pas mal, parce que chez Courbet, il n'y a pas que les Bonjour Monsieur Courbet et puis L'Origine du Monde, il y a aussi les serres, les forêts, énormément de sujets qui, à l'époque, était comme si non engagé. Aujourd'hui, ça fait tout son sens et tout est important chez Courbet. Il fallait lui laisser de tout faire et c'est pas, y a aucune hiérarchie en fait. Voilà. Et sinon, j'ai allé voir Ferdinand Hodler parce que pour avoir un réalisme beaucoup moins prétentieux et pour libérer un peu ma manière de regarder les nuages, peindre des choses avec une stylisation et avec beaucoup plus d'humour. Voilà.
Hodler qui a fait par exemple une montagne.
Des montagnes, exactement, ouais, des belle. Nuages, exactement. Ou le hacheur d'arbres, magnifique. Ils ont des très belles Hodler Orsay, ouais.
Est-ce que vous avez déjà dessiné dans le musée d'Orsay?
Non, mais j'ai pas vraiment besoin tant que ça de dessiner dans le musée parce que je dessine beaucoup avec les yeux. C'est-à-dire, c'est un petit toc que j'ai que quand je regarde les tableaux et j'ai besoin de comprendre comment ça a été fait, j'ai cette capacité de peindre avec les yeux. Dans ma tête.
Vous avez une mémoire très visuelle.
Et oui, mais même juste si j'ai fait le schéma de comment ça a été peint, je peux revenir à l'atelier avec ce savoir.
C'est impressionnant.
Merci.
Tu me connais, mes faiblesses, mes dents, j'aime pas les avouer. Toi ou les autres, c'est mort, tu m'as vu pomper. Depuis ce jour béni, on s'est rencontrés. J'ai dit la l'enchanté, hein. Ce sentiment, tous les jours. quotidiennement. Mais ton bac, tes baisers me manquent quand ça va en s'empirant. Pas en grandissant, cherche pas les compliments. Mais une sauce, c'est pas une sauce sans piment. KTM m'appelle, dis-moi toi toujours à quoi même. KTM amène, j'ai peur et je reste fidèle à moi-même. J'annonce, ce soir touche à fond. Tu jalouse, j'en ai rien à foutre. Je veux toucher à tout. Je subis tout un tour de magie. Ceux qui te font la cour vont aussi subir. Ils vont finir à la vidéo. Vidéo, y'a des mouvements illégaux. Illégaux, ça mouille à la météo. Météo, des comportements illégaux. Illégaux, KTM, ma belle. Je m'entends toujours à quoi même. KTM. Je reste fidèle à moi-même. Jalouse, ce soir touche à fond. Tu jalouse, jalouse, j'en ai rien à foutre. Je veux toucher à tout.
Lala Ace, le morceau Jalouse.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Nathanaël Herbelin, pour votre exposition au musée d'Orsay, Être ici est une splendeur. Vous avez choisi pour l'affiche votre tableau Emmanuel et Effie. C'est une femme au petit déjeuner qui enfouit son visage dans le pelage du chat qu'elle a sur les genoux. Pourquoi cette toile en particulier ?
Parce qu'en fait, c'est la dernière toile que j'ai fait pour l'expo. C'est une des seules que j'ai fait pour l'expo parce que la plupart des toiles, il faut le savoir, ils ont choisi dans mon travail. C'est moi qui ai choisi les toiles d'Orsay et c'est eux qui ont choisi dans mon travail. Et ensuite, j'ai demandé d'insérer une ou deux toiles de plus dans leur sélection, notamment Emmanuel et Effie. Emmanuel, c'est ma sœur qui est peintre, qui est excellente peintre, Emmanuel Herbelin, qui est encore en étude dans ses, à Jérusalem, etc. Mais vous allez voir. Et quand elle sort. Et ensuite, donc j'ai fait elle et Effie parce que Effie, c'est notre chat en Israël. Et en fait, Emmanuel, comme ça, elle le sent. Et je pense que c'est un moment de bulle. Et je l'ai peint vraiment pour la Dame au chat de Bonnard. C'est le seul tableau qui va faire hommage, qui va faire écho. Parce qu'on n'a pas voulu faire, évidemment, des choses trop littérales dans cette expo. Mais celui-là, j'ai décidé que ça va être littéral et que c'est très bien comme ça.
Nabi, on apprend dans le dossier de presse, Christophe Leribo le rappelle, c'est que ça veut dire en hébreu, en arabe aussi je crois,
oui, exact.
Prophète.
Exact.
Comment vous le... Est-ce que vous vous sentez une héritière des Nabis ?
Est-ce que je me sens prophète aussi ?
Oui, est-ce que vous êtes un prophète peut-être ? Et vous êtes le prophète ?
J'ai appelé ma fille Elisha parce que je pense que les femmes ont le droit aussi d'avoir des noms de prophètes. Mais je me sens héritière des Nabis et je pense que les peintres sont un tout petit peu prophètes, d'ailleurs les artistes, parce que souvent ils arrivent avec des idées très étranges. À premier abord, ils ont l'air vraiment souvent ridicules ou fous. Et en fait, tout d'un coup, on découvre qu'ils en avaient raison. C'est pas qu'avec l'immobilier, c'est aussi avec d'autres choses. Et ensuite, les Nabis, parce que je pense que j'ai juste allé beaucoup chercher comme les Nabis. Peindre ce que j'ai sous le nez, Donc, peindre les intérieurs, n'importe lesquels, peu importe le décor, en fait, juste faire avec ce qu'on a pour toucher un réel commun.
Alors, un mot sur les nabis pour les auditeurs qui n'ont pas tout en tête. C'est un mouvement assez court hein, qui dure de 1890 à 1900, qui s'organise autour du tableau Le Talisman de Paul Serrurier, fait en Serrusier, en 1888. Et Serrusier forme le groupe des nabis avec ses proches amis. Il y a Bonnard, Denis, Vuillard, j'en oublie. Et alors, ils se donnaient tous des surnoms.
Oui.
Paul Serrusier était le nabis à la barbe rutilante, Pierre Bonnard, le nabis très japonard, et Édouard Vuillard, le nabis zouave. Alors, et vous, Nathalie Herbelin, comment vous surnommeriez-vous ?
Bah déjà, je suis la nabis femme.
Mais pas uniquement.
Non, pas du tout. Et, je serais la nabis... j'aimerais être je pense que j'ai un truc qui est un peu différent des nabis, c'est que j'ai des tableaux qui sont un peu plus durs, qu'on n'a pas forcément inclus dans l'expo, et qu'il y a une partie de moi qui est pas complètement nabis. Et d'ailleurs on a voulu faire une expo nabis, etc., pour communiquer avec eux, mais si on aurait fait une expo avec Amershoy ou avec ou avec d'autres, même un jour, si j'aurais 80 ans, peut-être avec Degas, ou quand je serais prête, quoi. Mais il y a d'autres parties de moi qu'on n'a pas mis dans l'expo. Donc, peut-être, si je peux faire un pas en dehors du groupe, comme j'aime faire d'habitude, et avoir cet autre aspect.
Pour Amershoy, j'imagine que ce sont les pièces vides.
Exactement, exactement.
Et il y a d'ailleurs un tableau qui est une sorte de chambre ou de pièce érythréenne. Vous pouvez en dire un mot ?
Oui, c'est vrai. Je suis contente que vous vous demandez parce que c'est un de mes tableaux préférés de l'expo et je l'ai ajouté 2 minutes avant le vernissage.
Bah oui, il n'est pas dans le livret.
Oui, c'est ça. Waouh, bien vu. Et donc, les Érythréens, c'est que pendant le confinement, j'ai eu la chance d'habiter en Israël pendant toute la durée des confinements. Et mes voisins étaient des Érythréens. Les Érythréens, ils sont arrivés en Israël avant 2012. On a pu arriver en Israël et être réfugiés. Ils ont des passeports de 3 mois depuis 15 ans. Et il y a 70 000 Érythréens à peu près en Israël en tout moment. C'est juste Netanyahou qui a fermé la possibilité de venir à pied en Israël et se réfugier en 2012 en faisant une énorme fence comme ça entre l'Égypte et Israël. Une barrière. Et donc voilà, c'est très triste, mais heureusement qu'on peut avoir cette communauté réfugiée en Israël là en ce moment. Et il y en a aussi à Jérusalem. Et donc, à Tel Aviv, donc, pendant le confinement, j'ai pu peindre Emmanuel, Berezina et Michael. Et chez eux, pas mal de fois, ils ont un temple chez eux orthodoxe, parce qu'ils sont orthodoxes. Et ils vivent à 4 dans 16 mètres carrés. Et j'habitais donc chez un copain à ce moment-là et j'ai fait même un tableau de E4 avec 5 smoothies avocat banane sur une table et un était pour moi. Et j'ai pu vendre aujourd'hui ce tableau au musée de Tel Aviv, donc je suis très contente qu'il va être exposé, j'espère, pour que tout le monde sente la chaleur de ces gens et arrête un peu le racisme contre eux.
D'abord, j'ai été frappée par son œuvre, que j'ai découvert par hasard, vraiment, sur Internet. Et puis par son histoire, par son amitié avec Rilke. Ça fait des années que je côtoie Rilke. Et un de mes premiers étonnements, c'était pourquoi je la connaissais pas. Pourquoi je n'avais jamais rencontré ces tableaux-là. Et il se trouve que, je l'ai appris un peu plus tard, que c'est la première femme à s'être peinte nue. Et elle a aussi un regard sur les enfants qui est particulier. Enfin, c'est des tableaux que j'avais jamais vus avant. Le corps nu des femmes montré comme ça, le corps des enfants, le visage des enfants, le sérieux, la gravité du regard des enfants montré comme ça. Je ne connais pas vraiment d'équivalent. Enfin, ces tableaux-là, je les avais jamais vus.
Marie Darrieussecq dans L'humeur vagabonde de Kathleen Evin en 2016. Marie Darrieussecq qui a écrit Être ici est une splendeur sur la peintre Paula Modersohn Becker. Un livre qui a une grande importance pour vous, Nathanaël Herbelin, déjà parce qu'il a donné son titre à votre exposition, mais parce que le tableau qui porte ce nom vous montre nue et enceinte en train de vous doucher dans une baignoire. Mais sur l'esquisse préparatoire du tableau, le bain en petite version, la figure de la baigneuse n'est pas enceinte. Et alors, j'aimerais que vous racontiez aux auditeurs, prenez tout votre temps, parce qu'il y a des histoires extraordinaires autour de ça, et de votre côté et de la maternité, et du côté de cette peintre, et de la maternité aussi, et de la peinture. Je vous laisse nous raconter.
Merci.
Mais on veut tous les détails.
Merci, mais c'est incroyable que vous avez remarqué que sur l'esquisse, ce n'est pas le cas. Merci beaucoup d'avoir remarqué, ça me touche énormément. Et en fait, l'esquisse était faite bien avant que j'ai lu ce livre. Et en fait, il y a même deux esquisses. Et à chaque fois, je me suis dit que j'attends avec le grand tableau pour avoir une modèle. Et comme j'ai pas trouvé vraiment de modèle qui acceptait de faire ce tableau avec moi, j'ai fini par le refaire moi-même, comme dans l'esquisse. Cette fois-ci, j'ai lu mon amoureux Jérémy, il m'a offert à Noël le livre de Marie Dariussecq et je le dévore, alors que les romans français c'est pas du tout ce que j'adore faire, mais j'ai vraiment adoré ce livre et j'ai trouvé que le fait que Paola Mandelson-Becker s'est peint toute nue pour la première fois dans l'histoire de l'art et s'est peint enceinte, et alors qu'elle n'était pas enceinte, elle est tombée enceinte que un an après, on parle de 1906 quand même. Et je me suis dit qu'il faut absolument que j'essaye, notamment que j'ai déjà fait ça avec une copine, c'est-à-dire c'est pas la première fois que j'essaye de peindre une copine ou quelqu'un parce que je pense que ça peut aider d'une manière quelconque la fertilité. Mais bon, et en fait je décide de le faire sur moi en hommage à Étricité Splendor, en hommage à Paola Mandelson-Becker et à Marie Dariussecq. Et donc je le fais. Et j'enlève le ventre, je remets, j'hésite, je reçois mes règles, je pleure, je refais. Et en fait, deux mois après que le tableau était fini, je tombe enceinte.
Le tableau sur lequel vous vous représentez enceinte quand vous ne l'êtes pas.
Exactement.
Et vous tombez enceinte deux mois après.
Exactement.
Les Nabis croyaient au pouvoir incantatoire de la peinture. Vous aussi, alors, Nathanaël Herbelin?
Oui, je pense même ouvrir une compagnie de fertilité.
Par la peinture?
Exactement.
Et vous rembourserez si ça ne marche pas?
Non.
Pas sûr que ça fonctionne, alors. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Paola Mandelson-Becker fut enceinte l'année suivante. Elle est morte en 1907, des suites de son accouchement à 31 ans.
C'est vrai. J'ai décidé quand même si j'ai réfléchi, et encore aujourd'hui, j'ai réfléchi. Est-ce que, mauvaise sœur ou pas, est-ce que ça valait la peine?
Ben oui. Votre sœur vous a rendu visite pour vous aider à finaliser le tableau. Alors,
exact.
Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on fait pour se peindre soi?
Déjà, le fait que ma sœur était là, c'était génial parce qu'elle a pu m'accompagner. Elle accepte rarement de peindre avec moi. Avant, oui, maintenant, beaucoup moins. Et parce que je pense que toutes les deux, on pense qu'il faut qu'elle se concentre sur son travail et sur ce tableau à elle. Et deuxièmement, c'est parce que, en fait, c'était quoi la question?
C'était comment est-ce qu'elle vous a aidé?
Elle m'a aidé dans le miroir. Elle m'a aidé sur les seins dans le miroir. Elle m'a aidé à même psychologiquement à faire ce jeu où je me peins enceinte. Elle m'a aidé sur le carrelage. Elle m'a aidé sur énormément d'aspects, en fait.
Alors, pour le miroir, il faut le dire aux auditeurs qui n'ont absolument pas le tableau sous les yeux, mais je trouve toujours que c'est chouette de parler de peinture à la radio. On vous voit dans le miroir, mais alors, bizarrement, la femme reflétée ne semble pas être la femme qui se regarde dans le miroir.
Mais c'est tout ce que je voulais. Justement, se montrer pas en plusieurs phases. Et même aujourd'hui, je viens de finir un tableau où je suis sur trois miroirs. Vous connaissez ces miroirs où on peut les plier en trois, comme chez le
comme coiffeur. Les retables.
Exactement. Et donc, je me suis peint en trois fois comme ça. Et on va l'exposer bientôt à New York. Et en fait, trois fois, je ressemble pas du tout à la même fille. Et c'est génial, mais ça veut dire aussi tout ce que je sens tous les jours. C'est que j'ai tellement de phases et j'ai tellement de manières où je peux peindre, des manières où je peux être. Et il faut réussir à les montrer tous et comment mieux qu'en peinture.
Sur ce tableau aussi, c'est le reflet du miroir qui regarde le spectateur.
Oui.
Bon, c'est délibéré, j'imagine.
Oui.
Et vous n'avez pas répondu tout à l'heure à ma question et exactement comment est-ce qu'on fait pour se peindre? Est-ce que quelqu'un vous prend en photo et vous vous peignez après? Comment est-ce que vous vous mettez en scène?
Merci d'insister quand je réponds pas bien.
Ah non,
non, si. Et je peins beaucoup par photo, mais ça m'ennuie plus. Je préfère peindre d'après observation.
Alors comment vous faites quand c'est vous?
Alors c'est vrai que là c'était vraiment par photo et quand c'était le miroir, c'était un peu avec le miroir. Et là, par exemple, pour le tableau de miroir en trois fois, c'était complètement par observation. Et donc, tout ce qui est autour de le miroir, c'est très inventé. Un peu comme sur le tableau qui s'appelle Augustin. tout le fond d'Augustin, je l'ai inventé.
C'est un garçon un peu roux,
exactement,
je crois, qui est allongé sur un canapé.
Ouais, ouais, exactement.
Mais lui, vous l'avez inventé ?
Non, pas du tout. Lui, il était là par observation. Je l'ai fait de A à Z par observation.
Donc vous le faites poser comme les peintres des siècles précédents.
Exactement. Mais ouais, c'est pas si ringard. On le fait quand même aujourd'hui.
Ça dure combien de temps ? Combien
Alors, Augustin, ça s'est mal passé parce qu'il pose très mal. Il n'arrêtait pas de bouger. Il s'est endormi. Il regardait son téléphone. Ouais. Mais comme on est potes, il est revenu jusqu'à... De toute façon, il vient souvent à l'atelier. Et on peut voir, donc par exemple, son Esther, comment s'appelle, le cendrier, il a bougé pas mal. On peut voir sur le tableau, il y a le reste du cendrier qui était avant là-haut et maintenant en bas, il y a comme des repentis comme ça, du fait qu'il a bougé et que c'était pas si évident de le peindre.
Mais si par exemple vous faites le portrait d'un de vos amis, Nathanaël Herbelin, combien de temps ça prend? Vous prenez pas de photos du tout?
Alors,
quand il pose?
Si, je prends toujours des photos pour me rappeler où on était. Je mets du scotch autour de leur corps pour se rappeler où il était. Un peu comme dans un meurtre. Mais il faut qu'il bouge pas trop. Voilà. Mais ça prend 3 heures avec 45 minutes avec des petites pauses. Je leur fais à manger. Je cuisine très mal, mais je veux faire quelque chose quand même pour eux. Je leur paye souvent, 11 euros de l'heure, 15 euros de l'heure, quelque chose comme ça.
C'est vrai, vous payez vos amis aussi et votre famille?
Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très important qu'eux, ils sentent... En fait, j'ai pas envie...
Une pression.
J'ai pas envie de sentir que je leur prends leur temps et que j'ai envie que... Maintenant, je peux leur payer aussi parce que je gagne ma vie avec la peinture, etc. Donc, l'embourgeoisement fait ça. Et voilà.
L'éthique, c'est éthique.
Ouais, exactement, c'est éthique. Et aussi parce que si je paye quelqu'un, un modèle, un voisin, etc., pourquoi je ne payerais pas mes amis aussi, ça me fait un peu... Et attendez...
Vous êtes un chic type.
Merci.
Beauté de la voix de Mitski, le morceau My Love Mine, All Mine.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Nathanaël Herbelin, nous évoquons l'exposition Être ici est une splendeur qu'on peut voir en ce moment au musée d'Orsay. Et j'aimerais qu'on s'intéresse un peu à la maternité, un thème traité par Paula Modersohn-Baker, Marie Darrieussecq dans certains de ses livres, et vous-même, et je pense notamment au tableau Mère et enfant de Paula Modersohn-Baker et votre tableau Allaitement qui peut lui faire écho et sur lequel on vous voit avec votre fille toutes deux nues. Dans une baignoire, dans le commentaire du petit livret qui allait avec, vous dites « J'ai rarement vécu quelque chose d'aussi animal que l'allaitement ».
Ah ouais. Oui, j'ai oublié ce petit texte. Et d'ailleurs, il y a le magnifique livre de Marie Darrieussecq, Le bébé, qui m'a beaucoup aidée à traverser le pas. Parce que ça faisait très longtemps que je voulais être maman. J'ai vraiment parlé à mon enfant en faisant la vaisselle, quoi, il y a 5 ans. Voilà. Et après, quand j'avais peur de la relation peinture-enfant, en fait. Et depuis que Elisha est venue, c'est génial. Ça m'a vraiment prouvé qu'on peut tout faire. Et je peins entre les machines et je fais des pâtes et je fais des tableaux en même temps. Et ça me va super bien. Et d'ailleurs, j'ai pu même allaiter et peindre en même temps. C'est incroyable. Et je veux montrer aux autres femmes, et dans le monde de l'art où c'est pas si à la mode de faire des enfants, parler de ses enfants, envoyer des images de ses enfants, etc. Et que c'est possible et qu'il faut faire tout ce qu'on a envie, et si on a envie, et surtout si on n'a pas envie, bah c'est cool aussi.
Pourquoi vous pensez que c'est pas si répandu dans le monde de l'art ?
Bah j'ai vu. Et donc, l'allaitement, c'est un tableau que j'ai voulu faire aussi par rapport à... Parce que j'ai voulu peindre Elisha et parce que Jérémy a pris cette image de nous dans la baignoire. Et là, c'était vraiment par photo. Et en peignant, je me suis rendu compte... En fait, en peignant, j'ai tellement peint le visage d'Elisha. Je voulais que ce soit tellement exactement elle, exactement ses yeux, exactement ses pieds, exactement ses cuisses. Et du coup, c'est devenu comme un valotant, très très net, très très exact. Et ça allait super bien avec l'expo.
On voit des corps dénudés dans votre œuvre, Nathanaëlle Herbelin. Il y a un tableau au musée d'Orsay qui montre une femme en train de s'épiler le sexe dans Pince à épiler version 2. Mmh. N'avez-vous jamais éprouvé de crainte à vous montrer nue? Êtes-vous pudique? Quel est votre rapport au corps?
Non, pas très pudique. J'oublie mon corps. Et je m'habille parce que c'est un objet de s'habiller, mais ça m'agace la plupart du temps. Non, j'ai pas beaucoup de corps. Et parce que c'est très simple de se fuir, en fait, de me fuir moi, parce que je suis peintre. Donc on peut se concentrer sur ma peinture, et c'est tellement une chance.
Est-ce que vous essayez de vous embellir ou de vous enlaidir quand vous vous représentez ?
Non, je m'en fous et je m'emballais pas.
Je m'emballais pas, vous avez dit ?
Comment ?
Je m'emballais pas ?
Non, j'ai pas dit ça.
Ah non, c'était charmant en tout cas. Non, j'imagine un petit chien qui s'en fiche, non ?
Ouais, on va garder ça.
Est-ce que les corps, est-ce que vous les regardez avec désir ?
Oui.
On peut parler du female gaze, une expression qu'on peut lire dans le livret qui accompagne.
C'est pas moi qui l'ai utilisé.
Ouais. Vous êtes d'accord avec ce terme ?
Et je trouve que on peut, mais c'est parce qu'il faut expliquer des choses avec des mots. Mais je suis plus dans des trucs un peu plus ouverts, un peu plus moins littéral, parce que j'aimerais qu'on oublie justement que c'est une femme et que les femmes ont voilà, on est tellement au-delà, je pense. Et donc voilà.
Vous montrez le corps de vos amis, le vôtre et celui de votre amoureux aussi, dans Jérémy au bain. Son visage est la partie la plus sombre du tableau. Il est dans une baignoire un peu trop petite pour lui. Et tous les tons autour de lui sont dans des saumons tendres, un peu à la Morandi. Est-ce que ce sont des couleurs réelles de votre salle de bain ou est-ce que vous inventez les couleurs ?
Non, c'est pas du tout les couleurs réelles. C'était d'ailleurs dans un anniversaire où je lui ai offert un truc dans un château magnifique. C'était pas du tout notre salle de bain, nous. Et c'était le premier anniversaire qu'on lui a fait et j'ai voulu vraiment le gâter. En fait, c'est l'amour fou quand on s'est rencontré avec Jérémy et en fait le tableau, il était dans un moment très très compliqué pour moi où j'ai accouché et j'avais très peur que ce qu'on avait avec Jérémy, on était que 9 mois ensemble quand on est tombé enceinte, on a voulu tomber enceinte, évidemment, comme vous l'avez déjà compris, mais j'avais tout d'un coup peur que peut-être on n'avait pas assez de temps d'être que tous les deux. Et ce tableau, c'était vraiment un moment de dire au revoir à quelque chose qu'on avait avant d'avoir Elisha. Parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'un enfant va amener dans le couple. Et j'avais raison, bah ça change tout. et j'ai envie de... Quand je regarde aujourd'hui ce tableau, j'ai envie de le toucher. Jérémy, tellement je l'aime, tellement... En fait, ce tableau, j'ai vraiment tout mis dans... dans, j'ai tout mis ce que j'ai pu de d'amour pour que ça lui ressemble, pour qu'il soit comment il est, etc. Et pourtant, j'ai arrivé à quelque chose qui est pas exact. Ça m'a vraiment échappé. Et je trouve que ça, c'est intéressant, ce gap entre ce que j'essaye et ce que j'ai. Je peux rien contrôler, en fait.
Dans le livret qui accompagne l'exposition, c'est lui, Jérémy, oui. Il est poète, c'est
oui,
ça ?
Oui, exactement.
Il écrit « Nous naissons aveugles de nous, seuls à ne pouvoir jamais se voir qu'en image. Je te prête mon corps pour voir ce que tu vois devenir tes yeux. » Quelle a été sa réaction à lui quand il s'est vu peint par vous ?
Bah, il s'est vu tous les jours. On a habité avec le bébé, on a habité à l'atelier encore jusqu'à pas très longtemps, tous les trois. Et d'ailleurs, la plupart, je l'ai fait d'après observation, c'est-à-dire il a posé pour moi, même si la baignoire, etc., était par photo. Et oui, il m'a beaucoup aidé à le faire, parce que je me suis pris la tête énormément de temps. Comment faire ses genoux pour que ça soit ses genoux et comment faire. Je suis très fière de ses petits doigts de pied, ça ressemble exactement. Et il m'a vraiment accompagnée, comme d'ailleurs il accompagne tous mes tableaux depuis que je le connais.
On retrouve presque toute votre famille dans le livret qui accompagne l'exposition d'Athanaël Herbelin, dans vos tableaux aussi. Et puis il y a ce tableau au titre énigmatique, un tableau mélancolique. « Ma grand-mère à son mariage, funérailles, version 2 ».
Oui, non, c'est vrai que c'est un tableau mélancolique. Je l'ai fait pour ma grand-mère et je l'ai fait après qu'elle m'a quittée. En fait, ma grand-mère, c'était ma famille en France, hein. Et c'était la seule. Et quand elle est morte la nuit, tout d'un coup, et il y a 3 ans, exactement jour pour jour, le jour de l'ouverture d'Orsay. Donc, je suis sûre que c'est elle qui est un peu organisée. Et aussi, j'ai amené tout mon linge sale chez elle pendant 10 ans en France. Et je pense que, quand je l'ai amené, j'ai râlé. Quand je suis allée au Beaux-Arts avec linge propre, j'ai râlé. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais su beaucoup plus apprécier cette allégorie de pouvoir venir déposer son linge sale comme ça chez quelqu'un. Et c'est pour ça que j'ai fait ce tableau. Et c'est, j'essayais de le peindre le jour de son mariage à elle. Et quand je l'ai peint, bah, ça ressemblait à un funérail. Et en plus, d'autant plus qu'elle a gardé à peu près 100 et quelques tableaux grattés de moi dans son vivant. Et quand elle est morte, j'ai tout récupéré, c'était l'atroce. Et du coup, j'ai peint sur ce tableau. Donc ce tableau-là, c'était un peu moi dans la douche. Si vous allez voir l'expo, vous allez pouvoir voir moi dans la douche, allongée derrière elle. Parce qu'il était debout, le tableau, je l'ai mis en horizontal. Je l'ai peint elle et j'ai laissé moi dans la douche derrière elle apparaître un peu comme si une partie de moi est morte avec elle.
Vous dites, Nathanaël Herbelin, que si on regarde bien vos tableaux, il y a souvent une inquiétude qui en surgit. Est-ce que vous vous êtes inquiet ?
Oui, tout le temps, j'ai un peu inquiète, un peu tout le temps pour quelque chose. Dès que la chose m'a rassurée, ben je trouvais un autre truc pour être inquiète.
Est-ce que fixer des sujets en peinture soulage parfois certaines inquiétudes ?
Oui, carrément, je règle pas mal de problèmes et ça me calme. Et c'est pour ça que j'ai envie de revenir à l'atelier là, mais je sais pas avec quoi. Et comment peindre maintenant quelque chose d'autre? J'ai très envie de m'émanciper des habits aussi. J'ai envie qu'une partie plus dure de moi là et vient à l'atelier et que je me concentre là-dessus.
Quand vous parliez tout à l'heure de tableaux très durs de vous qu'on ne voit pas dans l'exposition, vous pouvez en parler. Qu'est-ce qui représente ces tableaux? Pourquoi sont-ils durs?
Parce que c'est. J'ai l'impression que c'est des tableaux peut-être qui sont moins. Je sais pas encore en fait, je sais pas encore.
C'est quelque chose que vous ressentez quand
c'est
vous les regardez.
C'est quelque chose que j'ai besoin de faire. Bah, c'est quelque chose que je vais faire là. Donc je sais pas encore exactement ce que ça va être, mais je sens que ça va être des choses que j'ai jamais fait avant. Et un peu comme. Je vais laisser plus de place à l'expérimentation. Et parce que, par exemple, à Orsay, il y avait beaucoup de tableaux inachevés qui tenaient pas exactement. Et donc. J'ai laissé de côté beaucoup de tableaux qui n'étaient pas dans conversation avec Denabi où j'ai laissé de côté. Et c'est justement ces tableaux-là que j'ai envie maintenant d'aller retoucher.
Pourquoi ces rivières soudain sur les joues qui coulent dans la
Ultramo. moderne Solitude d'Alain Souchon. J'ai choisi ce morceau parce qu'il y a de la solitude sur vos tableaux, Nathanaël Herbelin, et puis il y a aussi beaucoup de... Il y a des téléphones portables, des câbles d'alimentation électronique, il y a la solitude de quelqu'un éclairé par son écran d'ordinateur et la lumière qui en émane est quasi fantastique. Pensez-vous que la solitude s'est accrue avec la technologie ?
Oui, carrément. S'est accrue, ça veut dire...
A progressé.
Oui. Non, je suis pas sûre par rapport à ça, mais aujourd'hui j'ai l'impression que je suis très contre les écrans finalement. Et je veux qu'on s'émancipe et je le montre dans le tableau Is Room qui est à l'expo ou dans le tableau Laila qui est à l'expo. Et moi j'ai un petit désir comme ça, un fantasme que tout d'un coup tous les écrans lâchent, ça tombe, c'est noir. Et tout d'un coup on se lève les yeux et on se regarde.
Oui, ce serait beau. Oui. Il y a beaucoup de couples, de moments d'abandon. Il y a deux sœurs endormies l'une contre l'autre. Il y a un couple qui s'enlace debout, un couple qui s'enlace au lit. Aussi un couple séparé par une cloison. Enfin, on croit que c'est un couple, mais en fait, ce sont des voisins.
Oui, c'est vrai, c'est des voisins.
Et alors, parfois, il y a un peu de flirt avec le fantastique. Par exemple, votre tableau Avda. Moi, j'ai cru que c'était la même femme à deux moments différents. Une femme qui fume assise d'abord et puis ensuite, elle met sa culotte debout.
À devant, ouais.
Mais ce sont deux femmes différentes, en fait.
Ce sont deux femmes différentes. C'est vrai, il y a un côté fantastique qui m'étonne, moi aussi.
Dans Paysage mental, par exemple, c'est une chambre avec des ombres d'oiseaux.
Alors, Paysage mental, c'est un tableau qui était chez ma grand-mère d'un paysage du Negev raté. Et du coup, j'ai peint une chambre dessus. Et très bel accident, je suis très contente de ce tableau, je ne l'ai pas du tout réfléchi, c'est juste malgré moi. Et dans le côté fantasme là, il est vraiment par l'accident, mais dans Adva, le côté fantasme, ou dans d'autres tableaux, quand c'est très très beau avec des papillons et des surfeuilles et des tout ça, moi si ça m'étonne que je peins ça. Mais c'est peut-être parce que un peu comme ma mère, quand je raconte une histoire, j'exagère énormément et 50, il faut le couper en deux, c'est 25.
Et l'aîné et le bébé, c'est un tableau sur lequel on voit une femme qui a une serviette sur la tête, qui regarde le parquet, et il y a dessus un reflet quasi fantomatique.
De bébé.
De bébé.
Exact. Et mais c'est le fantasme de bébé.
Ah.
Là, c'est l'aîné qui veut un bébé, alors ça, on m'a dit oui, mais on va penser que c'est une perte de bébé ou quoi, et je me suis dit, chacun, il voit ce qu'il veut, et c'est ça qui est beau.
Nathanaël Herbelin, je vous ai choisi... non, je ne vous ai pas... Enfin, je vous ai choisi comme invité, mais je vous ai demandé de choisir un titre musical pour les auditeurs. Et comme vous n'arriviez pas à vous décider, vous nous avez envoyé votre playlist pour peindre. Et donc, dedans, on a pris ce morceau. Thank you. entend Charlie Meguera, Tomorrow's Gone, dans Grand Canal, sur France Inter. Un mot sur ce titre que vous écoutez en peignant, Nathanaël Herbelin?
Oui, carrément. Charlie Meguera, en hébreu, c'est... En fait, il joue parce qu'il dit Charles Meguera, ça veut dire « chante pour le tiroir ». Ça fait Charlie Meguera. Mais aussi, c'est un type qui a beaucoup de pseudonymes, donc qui a beaucoup, beaucoup de caractères d'autres musiciens qu'il est. Et moi, je l'envie parce que j'aurais rêvé de faire ça, de me faire passer pour une totalement autre peintre pour voir si j'arrive à peindre de manière complètement différente.
Je vous ai aussi demandé une découverte pour les auditeurs et vous avez choisi un livre pour enfants. On a trouvé un chapeau de John Classen.
Oui, c'est vrai.
Alors, vous pouvez nous en parler?
Bah oui, je l'ai amené là. Peut-être je le lis ou...
Comme vous voulez. Vous pouvez le décrire ou dire
ouais,
ce qu'il y a
décris.
Dedans.
Je le décris. C'est un livre qui s'appelle « On a trouvé un chapeau ». Et donc, c'est deux tortues qui marchent dans le désert. Déjà, c'est génial. Et tout d'un coup, ils trouvent un chapeau. Et ils se disent « Tiens, ça me va ? Oui, ça te va très bien. Et moi, ça me va ? Oui, ça te va très bien. » Bah, du coup, je propose qu'on le laisse ici parce qu'il y a un chapeau et on est deux. Donc, ils marchent et ils regardent le coucher de soleil. Ils se disent « Tu penses à quoi ?» Il dit « À rien. » Et toi, tu penses à quoi ? Ah, rien. Ok, bon, on va se coucher. Et il se couche, et tout d'un coup, il y a une des tortues qui va toucher l'autre chapeau. Et il dit, tu t'endors? Oui, je m'endors. Tu rêves? Oui, je rêve. Je rêve qu'on a tous les deux des chapeaux. Et bref, en fait, ce qui est beau avec ce livre, c'est qu'il dit qu'il faut mieux rêver ensemble qu'avoir tout seul un chapeau.
Ah ouais, c'est joli.
C'est très, très beau.
Merci pour cette parabole. Revenons à Être ici est une splendeur. Il y a une toile qui s'appelle Le canapé de l'amour. Pourquoi le canapé de l'amour? On voit un cendrier, un citron par terre.
C'était mon ancien atelier dans le 18e. Je viens de le quitter. Merci la France d'ailleurs pour m'avoir permis d'avoir un HLM, atelier logement de la ville de Paris, pendant 4 ans, presque 5. Et que j'ai quitté parce qu'aujourd'hui, je gagne ma vie avec la peinture. Et voilà, moi, je viens d'un pays qui n'est pas aussi social et que j'apprécie énormément tout ce qu'un pays social peut faire. Et donc, canapé de l'amour, parce que c'était des années géniales dans cet atelier. Et Jérémy, quand il a vu que je peins tout le monde sur le canapé, il a dit, c'est le canapé de l'amour, quand tout le monde y passe.
Jérémy, votre amoureux, je le rappelle.
Le poète, oui.
Oui. Dans la scénographie, il y a une partie de l'exposition intitulée « Constellation ». C'est tout un mur de petits formats mélangés. De vous, il y a Bonnard, il y a Vuillard, on voit un chat avec des yeux fantastiques. D'ailleurs, le chat est très présent dans l'exposition. Est-ce que vous avez un chat en France?
Non.
Puisque tout à l'heure, vous avez parlé
oui,
de votre chat
en
israélien.
Israël. Non, j'ai pas du tout un chat en France. Mais les chats, je trouve ça tellement sensuel. J'ai envie de peindre tout le temps. Et chez les Nabis, il y avait tellement de chats qu'on s'est dit qu'on va mettre tous mes chats aussi.
Il y a l'après-midi bourgeoise de Bonnard avec l'un des chats les plus rigolos de l'histoire de l'art.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il est tout aplati avec des yeux plissés comme ça.
Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un petit chat qui l'allait.
Ah oui?
Ouais, je pense que je l'ai vu aujourd'hui, ouais.
Je n'avais pas remarqué ça.
C'est le parc, c'est celui-là. C'est avec tous les personnages.
Moi, j'ai que le chat en tête.
Ok, ok.
C'est un peu gênant. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot pour les portraits funéraires d'individus dits du Fayoum, Nathanaël Herbelin, puisqu'ils ne sont pas si connus que ça, et je sais qu'ils vous fascinent.
Bah, ils fascinent beaucoup de peintres, donc je pense que chez les peintres, ils sont très connus, parce que c'est les premiers portraits, on peut dire, qu'on a conservés de l'histoire, qui sont faits à l'acoustique, c'est-à-dire qu'ils sont faits avec la cire, c'est pour ça qu'ils sont si bien conservés. La cire, ça conserve super bien. Et donc, c'est des portraits qu'on a faits dans l'Égypte occupée par la Grèce. On a fait ça à peu près un siècle avant Jésus-Christ. Et en fait, on a trouvé ces portraits enterrés et ils ont survécu. Mais avant, on les faisait pour conserver la mémoire du mort. Et 60 jours à la maison, on a vécu avec le portrait avant de l'enterrer avec la momie. Et moi, je trouve que ces portraits sont très, très intenses. Toute l'intensité existe parce que on n'a qu'un buste avec des yeux et un regard. Et en fait, cet exercice de contrainte, ça fait que le peintre, il avait que ça et il a fait avec que ça. Et ça, bah, les contraintes, souvent, c'est très, très bien pour les peintres.
Il y a des petits points blancs reconnaissables dans les yeux.
Et oui, il y a ça.
Sur ces portraits.
Il y a beaucoup de choses qui reviennent, mais ce n'est pas des icônes. C'est quand même des portraits qu'on reconnaît. C'est vraiment le visage de la personne. Il n'est pas simplifié.
j'ai lu une interview de vous où vous dites que, sur la répétition des œuvres, peindre le même objet plusieurs fois était une très bonne manière d'ouvrir son esprit.
C'est ça ?
Ouais.
Et ouais, c'est pas mal.
Vous vous lassez pas quand vous peignez plusieurs fois la même chose ?
Non, mais tout l'inverse. Je tous les jours, je peux peindre un peu différemment parce que je me réveille un peu différemment. Ou chaque fois, en fait, j'ai beaucoup de versions dans mon travail. Parce que je veux justement voir comment je peux faire différemment. C'est un jeu de moi avec moi-même, peut-être d'ego, et de me montrer que je peux faire autrement. Et peut-être aussi parce que j'ai du mal à prendre des décisions. Et faire plusieurs fois, c'est pas choisir. Et ça m'arrange.
Pour citer deux titres de vos expositions personnelles, on peut citer « Et peut-être que ces choses n'ont jamais eu lieu » ou « Tentative de positionnement ». J'aimerais savoir comment vous trouvez les titres de vos expositions et de vos œuvres, Nathanaël Herbelin.
Bah, ces deux-là, ils sont bien, mais ça ne veut pas dire que tous mes titres sont bien. Là, « Peut-être que ces choses n'ont jamais eu lieu », c'est la poète Rachel, qui est israélienne des années 40, je pense. Et tentative de positionnement, c'est moi qui l'ai inventé parce que j'étais beaucoup assise en Israël dans le désert pour peindre d'après observation. Et en fait, tu t'assois toujours devant des habitations ou devant un petit morceau de rien du tout qui est resté comme ça dans le désert parce que s'il y a quelque chose, bah, il reste des milliers d'années parce que rien bouge. Et en fait, la tentative de positionnement, c'était pour me positionner par rapport à tous les types d'habitants de ce désert. Donc, on sait très bien qu'il y a des Juifs et des Palestiniens, mais il y a aussi plein d'autres, les Bédouins, les zones militaires fermées, même les Érythréens maintenant, et à Beersheba et dans sa banlieue, les kibbutz, les chassidim de Gour, c'est-à-dire les orthodoxes extrêmement religieux qui viennent s'asseoir là parce qu'il y a une synagogue, en plein milieu du désert, habillés comme dans le 18e siècle en noir. Il y a plein de choses à regarder. Et moi, comme je suis peintre, je préfère tenter mon positionnement pour peindre et juste par observation demander des questions en peignant au lieu de prendre position en parlant.
Vous peignez beaucoup de gens faisant partie de votre entourage. Est-ce qu'il vous arrive de peindre des inconnus ?
Oui, ça m'arrive de voir quelqu'un qui ressemble justement à un portrait de Fayoum. Et là, j'ai besoin de le peindre. Ou d'ailleurs, un moine de 14e siècle. C'est-à-dire, il y a des jeunes qui ressemblent à des moines avec leur coupe de cheveux aujourd'hui, des trucs comme ça.
Est-ce que votre technique a évolué ?
Et oui. Aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que le fait d'avoir fait un enfant, j'ai besoin de peindre plus efficacement, plus vite. Et ça a vachement évolué. Et aussi parce que j'ai beaucoup, beaucoup amélioré ma technique sur col de peau de lapin avec le calcium que j'utilise pour faire comme la fresque. Et là, je peux peindre de manière vraiment très, très... C'est très vite, très beau.
Est-ce que vous pouvez expliquer, parce que pour ceux qui ne sont pas peintres, col de peau de lapin avec...
Du calcium, carbonate de calcium en poudre, tu fais en balle-marie. Et en fait,
c'est quoi de la colle de peau de lapin ?
C'est la colle qui colle entre les os et les muscles. Et si je ne me trompe pas, entre la peau et les muscles, je ne me rappelle pas. En fait, c'est une colle extraite d'animal. Il y a aussi la colle de peau de poisson. Et c'est une colle ancienne. En fait, c'est une technique ancienne, je ne l'ai pas du tout inventée. On l'utilise sur les icônes, on l'utilise sur beaucoup de... Et surtout sur bois, parce que c'est rigide. Et le rigide, il faut qu'il aille toujours avec le rigide, parce que si tu vas peindre rigide sur mou, ça va faire que peut-être ça va craquer. Et moi, c'est un peu ce que j'ai fait là dernièrement, c'est que j'ai peint dans ces techniques sur des toiles, et ça risque un tout petit peu de craquer, mais pour l'instant, la plupart du temps, ça va.
Pas rigide sur mou, alors.
Voilà.
Quel tableau du musée d'Orsay aimeriez-vous posséder ?
L'indolente, c'est vraiment un chef-d'œuvre, et je pense que Bonnard a su qu'il a peint un chef-d'œuvre pendant qu'il a fait.
Que n'êtes-vous pas encore parvenu à capturer en peignant ?
Un dîner avec beaucoup de gens, beaucoup de mains, beaucoup d'yeux. Je veux que ça soit très intense et qu'il y aura vraiment un moment très festif comme ça sur la table, et un moment très tendu comme ça entre les gens, mais aussi avec des relations surprenantes entre les gens qui dînent.
Vous avez déjà essayé ?
Oui, j'ai beaucoup essayé.
Donc, prochainement ?
Oui, il faut en réussir un, ouais.
Merci beaucoup, Nathanaël Herbelin.
C'est fini ?
Oui.
C'était génial.
Bah écoutez, j'en suis ravie.
Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Je rappelle que votre exposition « Être ici est une splendeur » est visible jusqu'au 30 juin au musée d'Orsay. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Estelle Gap, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Laurent Baudouin et dans un instant Very Good Trip par le sémillant Mishka Assayas qui est là.
Oui, bah, heureusement que je suis là. Et écoutez, bah, je voulais déjà remercier très chaleureusement votre invitée parce qu'elle m'a fait découvrir ce musicien, la Charlie Meguira. C'est très poétique, je trouvais ça magique. Enfin, vous lui direz, oui. Parce que je ne sais pas si la communication passe.
Oui, je crois que je vous entends que dans le casque.
Ah bon, bah, alors vous lui direz de ma part. Bon, oui. Voilà. Ce soir, écoutez, on va célébrer le retour d'un personnage très attachant qui a dû vous marquer, Eva. C'est Beth Ditto et son trio Gossip.
Évidemment,
voilà.
Évidemment.
Et voilà.
Et bien, à tout de suite.
À tout de suite.